le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Mamé, 11 ans, Jasmine, 11 ans aussi, Gwen, 13 ans, et Fanny, l'aînée de tout ce groupe, 17 ans. Elle vient de passer le bac et elle n'a pas encore les résultats, mais c'est dans 3 jours. Le temps buissonnier, la dernière de la saison et la dernière de ma carrière à Radio France, qui débuta, oh là là, en 1981 sur France Inter. Raison de plus pour donner la parole et passer le relais à ces jeunes lectrices, à ces jeunes adolescentes, accompagnées par Élodie Marchand et Valérie Baugier, responsables pôle ado des bibliothèques de Montreuil. Cette émission est donc la dernière. Depuis 1981, j'ai rencontré dans cette maison de la radio des gens formidables. J'y ai appris une multitude de choses indispensables. J'y ai mené de belles luttes et j'espère avoir partagé tout cela avec vous. Vous que l'on croise rarement et que l'on comptabilise désormais par segmentation, vous, les auditeurs. Oui, je pars car je me suis battue pour la retraite à 55 ans, puis à 60. Nous en sommes en 62, mais plus pour très longtemps encore, si j'en crois l'orientation idéologique d'Emmanuel Macron. En vieillissant, je suis devenue de plus en plus radicale et je me bats désormais pour l'abolition du salariat et une société autonome. Je suis donc heureuse de bénéficier de nos cotisations salariales, oui, c'est pas un cadeau la retraite, car la retraite est un droit chèrement acquis par les luttes et non pas un cadeau qui coûterait à la société. La retraite pour ne pas oublier de vivre, d'aimer, de voir la beauté du monde. En espagnol, la retraite se dit jubilación, jubilation. La retraite pour garder toute mon énergie pour les luttes présentes et à venir, et j'espère qu'il y en aura beaucoup et qu'elles seront victorieuses. Savez-vous ce que m'ont dit mes deux inséparables rebelles, Carmela et son grillon Negrito, à propos de mon départ ? Pas de chance, Aline. Modère ton enthousiasme, me souffla d'abord le grillon en se posant sur le bout de mon nez. Comment cela, pas de chance ? Je suis désormais totalement libre. Oui, mais au moment où tu quittes le salariat, tu vas vivre, nous allons tous vivre, tous les habitants de France, non pas dans un pays, mais dans une immense entreprise. Bon, je ne comprends pas ce que tu insinues, Carmela. Negrito s'envola de mon nez pour rejoindre la belle tignasse brune de Carmela en ricanant. Décidément, elle ne comprend rien à rien. Carmela le calma et tenta de m'expliquer. « Mais enfin, Aline, tu vois bien qu'à la tête de l'État, nous avons un chef d'entreprise et pas un président de la République. Et en guise de gouvernement, nous avons un conseil d'administration obéissant. » Et une assemblée nationale qui tient plus d'une assemblée générale des actionnaires, soumise, que d'un lieu de délibération libre et capable de s'opposer ou d'inventer. J'étais abasourdie par cette analyse. Je quittais donc le salariat pour me retrouver sous le joug d'un managériat d'État. « Allez, ne fais pas cette tête, me dit tendrement Carmela. Tu vas avoir tout ton temps pour venir avec nous sur les chemins, faire de l'éducation populaire, de l'éducation politique et participer à toutes les formes de résistance qui s'organisent un peu partout en France et au-delà pour l'autonomie, le respect des peuples, des exilés et de tous les sangs. Oh ben vous êtes bien gentils hein, là, mais on ne doit pas être très nombreux, non, ça se saurait sinon. Ah, crois pas ça, répliqua vertement Negrito, avant de me réciter un poème de Paul Éluard que cet insecte savait par cœur. Ils étaient quelques-uns qui vivaient dans la nuit en rêvant du ciel caressant. Ils étaient quelques-uns qui aimaient la forêt et qui croyaient au bois brûlant. L'odeur des fleurs les ravissait même de loin. La nudité de leurs désirs les recouvrait. Ils joignaient dans leur cœur le souffle mesuré à ce rien d'ambition de la vie naturelle qui grandit dans l'été comme un été plus fort. Ils joignaient dans leur cœur l'espoir du temps qui vient et qui salue de loin un autre temps à des amours plus obstinés que le désert. Un tout petit peu de sommeil les rendait au soleil futur. Ils duraient. Ils savaient que vivre perpétue et leurs besoins obscurs engendraient la clarté. Ils n'étaient que quelques-uns, ils furent foule soudain. Ceci est de tous les temps. Ce poème de Paul Éluard, je vous l'offre à toutes les quatre et à tous vos camarades du club des ados de la bibliothèque de Montreuil comme signe d'espoir. Je vous remercie toutes d'être là à la fin de cette année scolaire et à la fin aussi de l'année du club des ados, et vous venez pour le best-of. Alors, qui me dit ce qu'est le best-of au club des ados de la bibliothèque de Montreuil? Peut-être Fanny?
Oui, alors le best-of, c'est une sélection des 13 ou 14 meilleurs livres qui sont parus pendant l'année, qui est faite du coup par le club lecture, après un long débat, et qui du coup doit rassembler plusieurs caractéristiques. Doit y avoir plusieurs catégories en fait, du théâtre, du roman.
De la BD peut-être?
De la BD, oui. Mmh. Des documentaires aussi. Mmh. Et du coup, c'est une sélection qui est faite par la bibliothèque et qui du coup ensuite est donnée...
Au public, proposer
des lectures d'été en fait. Bon, sauf que cette année le best-of va être publié un peu plus tard que d'habitude, mais ce sera aussi pour le même but.
Juste une question, puisque Fanny, tu es la plus âgée, tu as 17 ans, tu as passé le bac. Est-ce que lire dans des clubs de lecture, etc., t'a aidé dans tes études littéraires?
Oui, je pense. Parce que en fait, ça permet de lire des nouveautés et du coup des livres vers lesquels on se serait pas du tout tourné naturellement. Et en fait, moi, je sais que je vais beaucoup vers les best-sellers, etc. Mmh. Et le club lecture, ça permet de découvrir des choses moins connues et du coup d'avoir un regard un peu plus enrichi, en fait, mmh. Je trouve.
Vous êtes d'accord avec Fanny? Parce que dans ce club, vous avez des âges très différents. Vous êtes combien au total, Mamé? Vous êtes, tu le sais à peu près?
Une vingtaine dans les dizaines, je crois.
Et il n'y a pas très longtemps, tu y es depuis quand au club?
Moi, je crois que j'y y est depuis 6 mois,
oui,
à peu près.
C'est tout neuf.
Oui.
Est-ce que tu as du plaisir? Est-ce que tu y trouves des choses que tu n'aurais pas imaginées dans ce club?
Oui, ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est les chroniques vidéo ou les chroniques par l'écrit.
Alors, tu en as fait des chroniques?
Ah oui, j'en ai fait deux.
Ce sont des critiques littéraires, c'est ça?
Oui.
Et tu... Alors, elles sont filmées et elles sont diffusées sur une télévision Actu FM, je crois. Non, c'est... Bon, on mettra ça sur le site que l'on trouve à Montreuil. De toute façon, tous les liens sont sur le site de la bibliothèque de Montreuil. Alors, tu as critiqué quel livre? Est-ce que ce sont les livres que tu as sous ton nez?
Non, ce ne sont pas ceux-là. J'ai critiqué... Le Power Controller et le tome 1 et le tome 2 de Le Club des Babysitters.
Mais tu lis beaucoup, dis-moi.
Oui.
Tu lis quand? Le soir, les vacances, le dimanche?
Je lis partout, dans la classe, dans la cour, chez moi, dans mon lit, quand je dors.
Ah oui, tu lis tout le temps. Alors en classe, c'est pas très recommandé. Tu lis autant, Jasmine?
Bah, moi aussi, je lis en classe, dans la cour. Quand j'ai rien à faire, je lis.
Mais en classe, alors là, c'est, pour moi, c'est mystérieux, pardon. Mais avant de partir, je veux tout comprendre. Vous arrivez à lire des livres, des romans en classe? Et les professeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent rien?
C'est plutôt pendant les temps libres.
Ah, voilà. D'accord, je me rassure. Ouais. Et tu lis partout, toi aussi?
Moi aussi, je lis dans le métro, dans la rue, pendant que je marche.
Ça, c'est dangereux, fais attention. Alors, puisqu'on y est, toi aussi, Gwen, alors vous deux, vous avez 11 ans et Gwen a 13 ans. Tu lis beaucoup aussi, comme tes camarades?
La plupart du temps, quand je lis, c'est plutôt des mangas ou des BD, parce que les romans, c'est pas ce que je préfère.
D'accord.
Mais c'est quand même intéressant. Mmh. Quand je lis, ben, c'est aussi en classe. Et quand je suis chez moi.
C'est une découverte pour moi. Et Fanny, je ne l'ai pas demandé, tu lis beaucoup?
Je lis tous les matins, quand je me réveille en fait, avant de venir en cours, ça me réveille. Et je lis beaucoup dans les transports aussi. Et puis après, en classe, quand j'ai le temps aussi, pour les heures de perm, etc. Mais voilà.
Donc voilà, des lectrices. Alors, qu'est-ce que vous proposez au best-of? Qui veut commencer? Moi. Oh, allez, tu lèves un doigt timide, Mamé, vas-y, c'est toi qui ouvre le bal. Tu nous as amené quoi pour le best-of? Qu'est-ce que tu nous conseilles de lire cet été?
Moi, j'ai pas trop participé au best-of. J'ai pas trop levé ma main.
Mmh. Mais qu'est-ce que tu as amené comme livre à nous conseiller aujourd'hui, à nous, auditeurs de France Culture?
Alors, j'ai amené Radburger, de David Williams, deux livres de David Williams, Les enfants les pires du monde et Culotté 1 de Pénélope Bagieu.
Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de ces livres ? Pour me donner envie, moi et les autres qui nous écoutent, de le lire ou de le faire lire à des ados.
Moi, David Williams, c'est vraiment mon auteur préféré, c'est vraiment un coup de cœur. La première fois que je l'ai lu, c'était de Tati Pourri, son premier livre, je crois. Et en fait, Ratburger, c'est une histoire très amusante. Elle attire les gens, il y a une touche d'imagination parce que David Williams, il finit pas vraiment la fin parce qu'il nous laisse imaginer un petit peu le reste. Et moi, je trouve que c'est vraiment super.
Et ça parle de quoi ? Parce que c'est un gros roman. C'est une histoire... En deux lignes, tu peux la résumer ?
En deux lignes, bah, ce sera un petit peu trop court. Parce que c'est un gros livre pour raconter plein de petites histoires.
D'accord. Il y a un héros, une héroïne ?
Oui, l'héros, c'est Zoé.
Zoé, c'est une fille, donc.
Oui, c'est une fille.
Ça compte pour toi que l'héroïne soit une fille, puisque tu es une fille ?
Bah, ça compte un petit peu, mais ça change à peu près rien. Ça peut être un garçon comme une fille.
Tu t'identifies quand même.
C'est pareil.
D'accord. Et le rouge, celui qui est en rouge, là ?
Ah, ce sont les enfants les pères du monde. C'est aussi de David Williams. Il y a 5 garçons et 5 filles. David Williams, il explique leur vie, leurs aventures. Bah, c'est super. Moi, je trouve que c'est vraiment super.
Tu as envie d'aller jusqu'au bout et que ça finisse pas. Et le bleu, le grand bleu
C'est Culotté.
Alors là, déjà, le titre est amusant.
Ça m'a beaucoup attirée.
Qu'est-ce qui t'a attiré, le titre ou la couverture ?
La couverture, le titre... Les dessins, ils sont très beaux.
Et de quoi ça parle ?
Ça parle de 15 femmes qui sont à peu près connues dans certains pays du monde. Elles essaient de changer quelque chose de leur... Elles font ce qu'elles veulent de leur destin, en fait.
Oui, elles sont libres. C'est
voilà,
comme ça qu'on peut dire.
Oui, elles sont
Et c'est
libres.
Des femmes qui existent vraiment ou c'est...
Oui, elles ont vraiment existé. Il y a même leur date de...
De naissance.
De naissance et de leur date de mort. Et il y en a une aussi qui existe toujours.
D'accord, qui est toujours vivante.
Danses, oui.
Bon, mais peut-être tu vas l'ouvrir tranquillement du temps qu'on parle des choix de tes amis pour nous dire un petit peu qui y a comme femme et laquelle t'as préférée. Alors, peut-être Gwen. Tiens, Gwen, tu nous as amené... Alors, tu as dit que tu préférais les mangas, c'est ça ?
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu as amené ? Des mangas ?
J'ai amené 2 mangas et une BD.
Oui.
Donc, j'ai amené Le mari de mon frère de Gengoro Tagame aux éditions Akata. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'avais envie de le mettre dans le best-of, celui-là. Parce que ça parle d'homosexualité, mais c'est pas de ça qu'on parle le plus. On parle du contexte, de comment les gens peuvent voir quand deux hommes s'aiment. Surtout au Japon, parce que c'est quelque chose que les gens, ils ont beaucoup de stéréotypes et beaucoup de préjugés. Et je trouvais que c'était quelque chose de très différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. Parce que on a différents points de vue en fonction des personnages. Parce que là, on a une jeune fille qui est jeune, qui a un point de vue innocent et qui ne comprend pas toujours. Et son père qui est très différent parce que lui, il connaît la société, il sait comment ça marche. Et puis, il sait pas comment s'y prendre pour rester poli, pas être mal à l'aise d'abord lui-même et aussi ne pas être mal à l'aise avec justement cette personne.
Alors, comment s'appelle cette manga ?
Ça s'appelle Le mari de mon frère. Et c'est l'histoire du coup d'un père qui vit seul avec sa fille. Il avait un frère jumeau qui est parti vivre à l'étranger et qui s'est marié là-bas avec un autre homme. Et sauf qu'il est mort quelques temps auparavant. Du coup, avec l'homme avec qui il s'est marié, il est revenu pour voir comment était la patrie de l'homme qu'il aimait. Et du coup, il va l'accueillir chez lui et il va commencer à comprendre comment était son frère, comment ça s'est passé, enfin... Ouais.
Ça donne vraiment envie de le lire. C'est pas un thème si courant, mais ça commence l'homosexualité dans la littérature jeunesse quand même. Hein?
C'est une façon très douce. C'est pas du tout quelque chose de brutal ou qui pourrait être mal vu des gens différents.
Ok, donc on voit qu'il faut encore malheureusement prendre des précautions pour pouvoir parler de cette thématique. Alors, et la grande bande dessinée, c'est quoi ?
Alors, ça s'appelle Irena.
Ouais.
Et des éditions Glénat.
Oui.
C'est de Norvan, Edvard, Trefouel, Walter.
Alors, cette bande dessinée, qu'est-ce qui t'a plu ?
Alors, cette bande dessinée, elle est très émouvante parce que ça parle des ghettos, du coup, et de la guerre, de la seconde guerre. Et c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Irena et qui aide justement les personnes qui sont dans ce ghetto, qui vivent vraiment mal, qui n'ont presque pas de nourriture, ils n'ont pas beaucoup d'habits. Et elle essaie de les aider comme ça pour que leur vie soit un peu meilleure.
C'est le ghetto de Varsovie ?
Ils n'ont pas précisé.
Ah, ça doit être le gâteau de Varsovie. Et le dessin, comment le juges-tu ?
Alors le dessin, il aurait pu être beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent, mais c'est d'une façon très simple et douce. Ils n'essayent pas de choquer ou de brutaliser avec les dessins. Et c'est très émouvant. C'était vraiment très triste aussi.
Encore un que j'ai envie de lire, en tout cas une bande dessinée. Et le dernier ?
Alors, celui-là, c'est moi qui ai beaucoup aimé, surtout. Ça s'appelle To Your Eternity. C'est de Yoshitoki Ohima, des éditions Pika. C'est le même auteur que A Silent Voice, qui avait fait beaucoup parler de lui. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est que c'est très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Ça parle d'un être qui n'a pas vraiment de conscience, qui ne connaît pas beaucoup à la vie. Et ils disent ça d'une façon très... très détaché parce que justement il n'est pas cruel, il n'est pas brutal, il est d'une certaine façon très neutre puisqu'il ne connaît pas. Et c'était quelque chose de vraiment intéressant. Ça changeait beaucoup de ce qu'on peut lire habituellement dans les mangas.
J'ai l'impression, Gwen, que tu aimes les choses délicates. Je me trompe ?
Oui, mais j'aime bien aussi les choses gore.
Ah ! Et voilà le feu sous la glace. Mais tu ne nous en as pas proposé. Alors, merci pour ces belles suggestions. Jasmine.
Moi, j'ai choisi un livre qui s'appelle Une fille au manteau bleu de Monica Hees. L'édition, c'est Gallimard Jeunesse. Et donc, c'est un livre qui se passe à Amsterdam en 1943. Donc, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'ai vraiment aimé ce livre parce que on s'imagine pas ce qui va se passer après.
Donc il y a du suspense.
Oui, et en fait, on suit les personnages. Donc c'est une fille qui s'appelle Annick et qui n'est pas juive, qui fait du marché noir. Et un jour, il y a une de ses clientes qui lui demande de retrouver une jeune fille qu'elle hébergeait chez elle. Donc ses parents sont morts un peu avant. Et donc, elle va mettre sa vie en danger dans cette enquête pour retrouver cette fille-là, donc, qui s'appelle Myriam Roosevelt. Et donc, elle est juive. Voilà.
Est-ce que c'est une période historique qui t'intéresse particulièrement ?
Pas vraiment. En fait, je travaille ça à l'école. Et à l'école, ça me plaît pas vraiment. Mais le fait de lire en livre,
en roman,
ça change tout. Enfin...
Et oui, hein, parce qu'on vit de l'intérieur les personnages.
Et ça fait aimer, ça fait aimer l'histoire, ça fait aimer la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que je le conseille. Et donc, on suit vraiment les personnages comme si on faisait avec eux l'enquête. Donc, c'est dur, mais en même temps, on la raconte d'une manière adaptée à l'enfant. Et ça m'a plu.
Voilà. Merci beaucoup. Moi, je te souhaite de rentrer en sixième et de t'y plaire beaucoup. Alors, Fanny, un petit livre devant toi.
Oui, alors ce livre, c'est du coup le livre que je défends pour le club. C'est Happy End de Anne Loyer chez Alice Édition. Et en fait, donc du coup, c'est très court, mais c'est très touchant. Et,
c'est un roman ?
Oui, c'est un roman. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui a 17 ans. Et en fait, qui a un handicap, on ne sait pas réellement lequel, mais un handicap mental, qui fait qu'en fait, il pense comme un enfant. Du coup, en fait, on est dans sa tête et on voit la façon dont il perçoit le monde autour de lui. Et sa vie va être un peu chamboulée quand il va y avoir une jeune fille qui va emménager à côté de chez lui. Et du coup, on voit en fait comment il découvre cette jeune fille, etc.
En fait, toi qui veux faire du cinéma, je crois,
oui.
C'est une caméra subjective. On est dans la tête du personnage. Et quel monde il voit ? Qu'est-ce qu'il nous montre, justement, ce personnage ?
En fait, c'est étonnant de voir comment, en fait, il sépare les gens en catégories. Il dit, il y a les méchants, il y a les gentils, il y a les jamais entre les méchants et les gentils. En fait, les jamais, c'est comme sa voisine qui lui parle jamais, donc il sait rien d'elle. Et en fait, c'est intéressant parce que Il voit les gens au-delà des caractéristiques que nous, on a. En fait, on a beaucoup d'étiquettes qu'on met sur les gens. Et par exemple, bah, la jeune fille, je ne vais pas vous dire comment elle est, mais en fait, moi, par exemple, je ne serais pas allée vers cette fille parce que je lui aurais tout de suite collé une étiquette et tout. Alors que lui, en fait, il la voit totalement différemment. Il la voit comme une princesse de conte de fées, un peu. Mmh. Et cette façon de voir, bah, ça lui donne un autre point de vue sur son histoire. En fait, ça permet de rentrer dans son histoire à elle d'une autre manière, en fait. Et du coup, on voit qu'il est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît, en fait.
Alors, justement, est-ce que ce livre, si tu l'as aimé, c'est peut-être parce qu'il a changer un petit peu ta façon de regarder le monde? Est-ce que parfois tu te poses pas la question de te dire « Ah mais, si j'étais ce personnage-là, peut-être je m'arrêterais pas aux a priori ».
Bah, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, surtout bah, parce que oui, ça parle pas vraiment du handicap mental, mais ça peut poser aussi la question de comment on voit les personnes qui sont handicapées mentales. Et par exemple les personnes trisomiques ou autistes, on les voit vraiment bizarrement, comme s'ils avaient, ils n'étaient pas dans notre monde. Alors qu'en fait, ils sont dans notre monde à leur manière, en fait. Mmh. Et du coup, je me suis rendu compte que, bah, en tout cas, ce personnage, il est extrêmement sensible, il comprend plein de choses, et puis il a plein de rêves d'avenir et tout. Enfin, du coup, voilà. Ça...
Alors, merci. Hein, vous nous avez donné pas mal de livres. On va les retrouver sur notre site pour les conseiller aux auditeurs. Tu as trouvé un personnage, Mamé, dans ce livre, une femme qui était culottée et qui a changé le monde?
J'en ai deux.
Allez, vas-y, deux.
Ce sont les sœurs rebelles Las Mariposas. Donc, en fait, ce sont quatre sœurs. Il y a Patria, Adela, Minerva et Maria Teresa. Elles sont sous la présidence de Rafael Trujillo. Et en fait, ses parents, les parents des quatre sœurs, en fait, ils sont un petit peu obligés de lever la pancarte, mais, même s'ils sont pas trop avec le président. Et il y a la plus grande Patria, elle dit « Comment ça, on est obligé de rester sous sa présidence ?» Et elle devient communiste.
D'accord. Alors ça, c'est la première. Et la deuxième, mais alors juste nous dire le nom, parce qu'on va avoir très peu de temps.
Elle s'appelle Lema Jiboui. C'est une travailleuse sociale. Elle se marie très tôt.
Dans quel pays?
Au Niger. Mmh. Au Nigeria, oui. Elle se fait battre par son mari. Et en fait, comme au Niger, c'est la guerre, elle eut très tôt la vision des choses. Il y a beaucoup de morts elle a beaucoup vu de morts qui se sont écroulés à côté d'elle. Par exemple, sa meilleure amie.
Et elle va rentrer en résistance? Qu'est-ce qu'elle va faire?
En fait, dans ce texte, dans son texte, oui, elle se fait battre, mais pour une raison. Elle est tombée enceinte et son mari ne voulait pas. Et donc, elle priait pour le bon Dieu parce qu'à chaque fois que son mari venait...
Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Dis-moi la fin. En quoi elle devient culottée et remarquable?
Elle devient culottée et remarquable parce qu'elle aide les femmes au Niger qui se font battre. Par exemple, elle leur dit de briser le cercle de la violence. Et moi, c'est ce qui m'étonne le plus parce que il y a beaucoup de femmes dans le monde qui sont dans sa position. Moi, vraiment, ça me touche vraiment leur histoire parce que, à la fin, elle voulait en fait travailler dans une université américaine, mais elle ne le pouvait pas. Et là, quand elle grandit, elle eut vers les 21 ans, et c'est là où elle commençait à réaliser son rêve. Et moi, c'est ce qui m'a le plus touchée.
Alors, je vous souhaite à toutes de réaliser vos rêves, déjà, hein, de mener les luttes qu'il faut mener, individuelles et collectives, hein, comme dans ce livre. Merci, Mamé, de nous avoir parlé de ce livre. Merci à toutes d'avoir dit des choses aussi sensibles. Oui, Jasmine.
Moi aussi, je voulais parler de culotté parce que j'ai pas lu le tome 1, mais j'ai lu le tome 2. Donc, à la base, ils sont à ma mère. Et en fait, j'aime bien ce type de livre parce que dedans, il y a tellement d'histoires qu'on peut choisir l'histoire de la femme qui nous intéresse le plus. Et même si on les connaît pas, on peut feuilleter et trouver l'histoire qui nous convient. Ou bien on peut juste tout lire. Et j'aime bien parce qu'on peut choisir un peu la manière.
Et c'est vrai que la présentation est tout à fait adaptée à votre âge. Je rappelle que vous êtes en cours moyen 2, que vous allez rentrer en 6e, que vous avez 11 ans. Donc bravo, merci à toutes. Alors, la bibliothèque de Montreuil a fait beaucoup de choses. J'ai aussi participé et on peut retrouver sur le site de la bibliothèque beaucoup de textes d'adolescents de votre âge ou un peu plus grand dans une exposition qui s'appelle « Changer le monde ». Ouais, grave. Enfin, changer le monde, grave. C'est-à-dire qu'on voit là que votre génération a envie de changer le monde, est prête à le faire, se pose plein de questions, a aussi plein d'idées. Et il y a des textes magnifiques qui sont exposés dans Montreuil, dans le parc devant la bibliothèque, dans la bibliothèque, mais surtout, tous les textes seront sur le site tout ce mois de juillet, à partir de ce mois de juillet et pour toujours. Donc voilà, si on veut retrouver vos idées, vous en avez beaucoup, eh bien on peut aller sur le site. Je voulais vous remercier toutes d'être venues aujourd'hui. Je tenais à ce que ma dernière émission se fasse avec les jeunes gens du Club des ados de Montreuil, mais à travers vous, c'est tous les jeunes gens de France et du monde que, bien sûr, j'ai envie de dire merci d'être ce que vous êtes, de devenir ce que vous désirez être. Et j'espère que je vous verrai grandir et que vous m'accompagnerez, comme tous les autres, pour construire tous ensemble un monde meilleur où nous soyons tous heureux d'être ensemble, comme on l'a été dans cette émission. Merci à toutes. En quittant France Culture, je vais connaître pleinement la joie des chemins buissonniers. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site franceculture.fr et y retrouver quelques idées de spectacles pour Avignon dont je n'ai pas eu le temps de parler. Le temps buissonnier, comme tout ce que vous entendez à la radio, n'existerait pas sans la loyauté, la rigueur et le talent de celles et ceux que l'on appelle l'équipe et qui travaillent dans l'ombre. Ce sont des hommes et des femmes qui ont un métier et j'espère que les métiers ne disparaîtront pas de notre société. Dans la mare vaseuse des compétences et autres flexibilités, compétitivité et critères classants que l'État et le capitalisme veulent nous imposer. Merci donc à Franck Lilin, réalisateur, à l'exceptionnel l'ami fidèle et loyal Annie Comier, attachée d'émission. Merci à tous les ingénieurs du son, les techniciens avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années, à Radio France, à France Culture, France Bleu, France Inter, et ce depuis 1981. Et aujourd'hui, merci à Bernard Lagnel. À vous les jeunes de Montreuil et d'ailleurs, ces mots de René Char, « Impose ton risque, va vers ta chance, serre ton bonheur à te regarder, ils s'habitueront. » Le temps buissonnier a filé trop vite, comme la vie parfois. Il est bientôt 7h, l'heure du premier journal d'information sur France Culture.